Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 27 mars 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La diplomatie dynamique et la politique étrangère équilibrée de l'Iran sont sur la bonne voie, affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères. Les Yéménites ont organisé des manifestations pour marquer le 8e anniversaire de la guerre imposée par Riyad et 200 manifestants ont été blessés, dont 40 grièvement durant les violents affrontements qui ont éclaté aux abords du chantier de la bassine de Sainte-Soline en France. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran avance sur la bonne voie pour concrétiser une approche de politique étrangère équilibrée et dynamique à la lumière des dernières percées de la politique étrangère iranienne. Dans un message publié lundi 27 mars sur son compte Twitter, Hossein Amir Abdollahian a déclaré qu'il s'était récemment entretenu avec de hauts diplomates de plusieurs pays et qu'il s'entretiendrait bientôt avec son homologue russe, Sergei Lavrov, à Moscou. Ces derniers jours, j'ai échangé des vues avec les ministres des Affaires étrangères d'Autriche, d'Australie, d'Oman, du Qatar, du Koweït, de Turquie, des Émirats arabes unis, de Suisse, du Pakistan, de Malaisie, d'Arabie saoudite, de Libye et de Syrie, a-t-il écrit. Je vais bientôt rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères à Moscou. Le gouvernement iranien actuel, dirigé par le président Ebrahim Raisi, poursuit une politique de réparation des divisions et de renforcement des relations avec les États voisins régionaux et transrégionaux. Dimanche, M. Amir Abdollahian a eu une conversation téléphonique avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. C'était le deuxième appel téléphonique entre les deux hauts responsables en moins d'une semaine. Les deux parties ont discuté du dernier statut d'un récent accord entre Téhéran et Riyad pour relancer les relations. Plus tôt ce mois-ci, l'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades et missions diplomatiques après 7 ans d'éloignement. La Chine a servi de médiateur au rapprochement entre les deux puissances du Moyen-Orient. Des millions de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes et provinces yéménites pour marquer le 8e anniversaire de la guerre brutale menée par les Saoudiens contre ce pays arabe. Les manifestations massives ont été organisées dimanche 26 mars dans de nombreuses villes et provinces, dont la capitale Sanaa, mais aussi à Sada ou encore à Taïz. Les manifestants ont exigé la fin de l'agression militaire et du siège brutal de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Des pancartes et des slogans contre la politique américaine ont été brandis par les manifestants qui se sont rassemblés sur les principales places des villes pour dénoncer la guerre menée par l'Arabie saoudite et se permettre de poursuivre leur résistance contre les agresseurs. Les rassemblements ont eu lieu un jour après que le chef du mouvement de résistance yéménite, Abdul Malik al-Houssi, a appelé les yéménites à organiser de vastes manifestations pour marquer la 8e année de résistance. À Sanaa, un grand nombre d'habitants sont descendus dans les rues et ont scandé des slogans en faveur de la résistance contre les agresseurs, a rapporté la chaîne de télévision yéménite Al-Masira. Dans d'autres provinces, notamment Taïz, Adja, Al-Jawf et Al-Baïda, les gens se sont rassemblés sur les places principales pour démontrer leur résistance continue contre les agresseurs. Le membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohamed Ali al-Houssi, a envoyé un message à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, soulignant que si elle avait l'intention de quitter le Yémen, la voie lui était ouverte. Un groupe irakien nommé Brigade al-Ghalibun a revendiqué la responsabilité de l'attaque de drones jeudi 23 mars contre les forces d'occupation américaines dans l'est de la Syrie. Le groupe irakien Liva al-Ghalibun, ou Brigade des conquérants, a dans un communiqué revendiqué la responsabilité de l'attaque aux drones menée jeudi contre la base militaire américaine dans l'est de la Syrie. Nous annonçons que l'unité de drones de la résistance islamique de la Brigade al-Ghalibun a pu attaquer jeudi, le premier jour du mois béni de Ramadan, l'aéroport de Ramilan, en République arabe syrienne, qui est occupé par les forces américaines. Selon les occupants américains, cette opération a causé des morts et des blessés parmi les militaires, précise le communiqué. Le groupe armé a déclaré dimanche 26 mars dans un communiqué que notre opération et d'autres opérations qui auront lieu avec la permission de Dieu sont conformes à la réponse légitime aux crimes contre les commandants de la résistance et aussi aux crimes américains dans le pays et ailleurs dans la région. Al-Ghalibun a en outre déclaré que ses combattants avaient l'intention de mener des attaques plus précises avec des armes en développement continu contre les forces d'occupation américaines jusqu'à leur retrait complet de leur pays. Les Américains ne se sentiront plus en sécurité. Les médias palestiniens ont rapporté que certains combattants palestiniens ont tiré sur les soldats sionistes présents au poste de contrôle d'Al-Jalma, situé au nord-est de Jenin, puis ont quitté la scène de l'opération. Le régime sioniste n'a pas autorisé la publication de plus d'informations sur cette opération. Aucune information sur l'identification ou l'arrestation des auteurs de l'opération n'a été publiée non plus par les médias israéliens. Samedi, l'opération des combattants palestiniens dans la région de Avara, située autour de Naplouse, avait plusieurs blessés parmi les soldats sionistes, dont deux ont été hospitalisés. Le bataillon de Jenin, l'une des unités affiliées aux brigades al-Quds ou Saraya al-Quds, branche militaire du djihad islamique de la Palestine, a su créer le noyau d'une nouvelle lutte armée contre l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée et surtout dans le nord de la région. Le groupe de résistance palestinien baptisé La Fosse Lion a également organisé ses luttes contre les sionistes à Naplouse. Des sources d'information ont fait part lundi 27 mars de la mise en état d'alerte de l'armée israélienne suite à la recrudescence des manifestations anti-réformes judiciaires du cabinet centraliste Netanyahou dans différentes villes de la Palestine occupées. Le canal 12 de la télévision israélienne a rapporté que l'armée israélienne a annoncé l'état d'alerte après avoir perdu le contrôle de la situation à l'intérieur de la Palestine occupée. Plus tôt, la police du régime sioniste avait fait état de la tenue des rassemblements et des manifestations de protestation dans 150 localités à travers les territoires occupés. En même temps, des policiers auxiliaires ont été appelés pour faire face aux conflits internes en cours. La radio attachée au régime de Tel Aviv, se référant à la police, a annoncé qu'elle arrêterait toute personne se livrant à des actes de violence et de vandalisme extrême. Le journaliste Al Jazeera, depuis Rots occupé, a rapporté que des milliers de manifestants se sont rassemblés à la Knesset et déclaré leur opposition aux réformes judiciaires. Plus tôt, des sources d'information avaient fait état d'un violent conflit entre des manifestants et les forces de police israéliennes devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Rots occupé. Des manifestants contre le limogeage du ministre de la guerre de ce régime, Yoav Gallant, qui entendait franchir les barrières de sécurité devant la résidence de Netanyahou, se sont affrontés avec la police israélienne. Selon ce rapport, la police israélienne a utilisé des canons à eau pour empêcher les manifestants d'avancer. Le rapport ajoute qu'un partisan du premier ministre israélien a tenté d'écraser les manifestants avec une voiture. Dimanche, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue des territoires occupés pour une deuxième journée consécutive pour protester contre le plan controversé et impopulaire proposé par Netanyahou pour remanier le système judiciaire du régime d'occupation. Les manifestations massives ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment dans la ville côtière de Tel Aviv et dans la ville occupée de Rots, où se trouve la résidence du Premier ministre. Ils sont intervenus juste un jour après que quelques 200 000 personnes ont organisé un rassemblement de protestation à Tel Aviv dans le cadre de manifestations hebdomadaires contre les soi-disant réformes judiciaires. C'est la 12e semaine consécutive que des manifestants israéliens protestent contre le plan de Netanyahou, le qualifiant de ministre du crime. 200 manifestants ont été blessés, dont 40 grièvement, durant les violents affrontements qui ont éclaté aux abords du chantier de la bassine de Sainte-Soline. Le bilan, encore provisoire, fourni par le parquet, ne porte que sur ceux qui ont été pris en charge par les secours, ce qui peut expliquer l'écart important entre les chiffres. Un manifestant est entre la vie et la mort après de violents affrontements avec les forces de l'ordre le samedi 25 mars aux abords de la méga-bassine de Sainte-Soline. Le pronostic vital de cet homme de 30 ans, victime d'un traumatisme crânien, resté engagé dimanche 26 mars selon le parquet de Niort qui a dénoncé la brutalité policière. L'homme de 30 ans a subi samedi un traumatisme crânien mettant sa vie en danger après que la police a attaqué les manifestants dans le village du sud-ouest de Sainte-Soline avec des grenades lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc, a déclaré dimanche le procureur Julien Vatplet. Deux autres manifestants ont été aussi pris en charge en urgence absolue. Une femme de 19 ans souffrant d'un traumatisme facial et un homme de 27 ans présentant une fracture au pied. Ils ont été hospitalisés à la suite de blessures causées par un usage excessif de la force par la police contre les manifestants qui tentaient d'arrêter la construction de bassins d'eau géants pour irriguer les cultures. Une enquête a été ouverte pour déterminer la nature exacte des blessures graves de 3 manifestants au total et les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été blessées, a aussi précisé Julien Vatplet dans un communiqué de presse. 2 gendarmes parmi les 29 blessés sont également en urgence absolue, sans pronostic vital engagé, indique en outre Julien Vatplet, ajoutant que 2 journalistes avaient été blessés. Samedi à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, une journée de protestation a lieu contre le chantier d'une méga-bassine, un réservoir d'eau destiné à l'irrigation agricole. Un enjeu écologique important pour les manifestants après une année de sécheresse record. Les autorités françaises avaient déployé environ 3 000 policiers pour protéger le chantier. De 6 000 à 30 000 personnes, selon les sources, autorités ou organisateurs, avaient convergé vers la bassine en chantier dans le but de stopper la construction de ces réservoirs d'eau destinés à l'agriculture avant que de violentes échauffourées n'éclatent entre une partie des manifestants et les forces de l'ordre. La manifestation faisait suite à des jours de troubles dans tout le pays à propos du projet très controversé du président français Emmanuel Macron de relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le commentaire politique vous sera présenté. États-Unis, crise bancaire, les investisseurs retirent près de 100 milliards de dollars des dépôts. Malgré les tentatives d'assurance des régulateurs selon lesquelles le système bancaire était sain et résilient, les clients américains inquiets ont collectivement retiré près de 100 milliards de dollars de comptes bancaires à la suite des récents effondrements bancaires, selon les données de la Réserve fédérale de New York. au milieu de la récente crise bancaire aux États-Unis, qui a été caractérisée par la prise de contrôle fédéral américaine de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, et suivie par la fusion du Crédit Suisse avec UBS, les banques du monde entier auraient été confrontées à une chute des dépôts des clients et à des pertes sur la détention de titres. Une plus grande partie des 98,4 milliards de dollars tirés des comptes pour la semaine se terminant le 15 mars provenait de petites banques, selon les chiffres. Au milieu d'une sortie de 120 milliards de dollars, le total des dépôts s'est révélé être tombé à un peu plus de 17 500 milliards de dollars, ce qui représente environ 0,6% du total global. Les données publiées par la Banque centrale des États-Unis montrent que les retraits sont intervenus dans la foulée des effondrements brusques de Silicon Valley Bank, SVB et de Signature Bank, ainsi que du rachat de Crédit Suisse par UBS Group AG. La Banque d'investissement multinational et la Société de services financiers ont accepté de reprendre le Crédit Suisse Group AG en difficulté le 19 mars dans le cadre d'un accord de 3,2 milliards de dollars. Depuis lors, près de 200 autres petites banques risquent également de faire faillite selon une récente étude. Alors que les retombées des banques renversées ont secoué le marché mondial, la Réserve fédérale a annoncé que des facilités de prêt d'urgence seraient disponibles pour les institutions de dépôt éligibles. Aux États-Unis, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et d'autres responsables ont cherché à apaiser les craintes d'une nouvelle exacerbation. Alors que le Conseil de surveillance de la stabilité financière s'est réuni pour une réunion à huis clos le 24 mars, une lecture citée par les médias a déclaré. Le Conseil a discuté des conditions actuelles dans le secteur bancaire et a noté que bien que certaines institutions soient en difficulté, le système bancaire américain reste solide et résilient. Le Conseil a également discuté des efforts en cours des agences membres pour surveiller l'évolution financière. Jerome Powell de la Fed a également vanté publiquement la sécurité du système bancaire en disant « Vous avez vu que nous avons les outils pour protéger les déposants lorsqu'il y a une menace de préjudice grave à l'économie ou au système financier et nous sommes prêts à utiliser ces outils. Et je pense que les déposants devraient supposer que leurs dépôts sont en sécurité. » Toutefois, malgré toutes ces assurances, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI a lancé un avertissement clair dimanche 26 mars. La directrice du FMI a admis que 2023 serait une année difficile avec une croissance mondiale ralentie à moins de 3% et des perspectives pour l'économie mondiale à moyen terme qui resteront probablement faibles.
Bienvenue. Le sujet du jour, du débat d'aujourd'hui donc, se trouve être la Syrie, la situation syrienne au niveau international, au niveau de ses voisins arabes, s'est améliorée plus que ça même, puisqu'il a eu droit à une visite en Arabie Saoudite qui s'est faite en grande pompe. Tout de suite donc, nous allons faire venir nos invités, tous les deux d'un point de vue virtuel. Alors, première invitée étant Madame Aïssar Midani, l'une de nos experts. Bonjour Madame Midani.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité, Monsieur Luc Michel.
On rappelle que Mme Midani est franco-syrienne et c'est notre analyste, notamment sur les questions syriennes. Alors, vous l'avez compris, notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel. Bonjour Monsieur Luc Michel, ravi de vous avoir avec nous.
Moi aussi, bonjour votre équipe et bien entendu à Mme Midani. Et joyeux Nowruz à tous les Iraniens.
C'est gentil, merci à vous, merci beaucoup. Alors, Madame Midani, j'ai envie de commencer par vous parce qu'il y a quelques semaines, dans les mêmes studios, on avait parlé de la Syrie et vous vous disiez donc très optimiste, je reprends vos propos, concernant le futur syrien. On savait également que par le fait que Damas souhaitait stabiliser son pays, ils allaient devoir avoir une ouverture au niveau international. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la réunion de la Ligue arabe, eh bien, on y a été question, mais il fallait que ce soit le monde arabe qui fasse le premier pas. Comment vous avez envie de commenter l'actualité syrienne de ces dernières semaines?
En effet, je crois que ce qui est assez remarquable, c'est que l'ensemble des pays arabes reviennent vers la Syrie peu à peu, en fait, je dirais. Bien sûr, Oman, Mascate, ils n'ont jamais coupé les relations. Les Émirats arabes unis ont coupé les relations en 2012, comme vous le disiez dans votre rapport, mais sous pression américaine. Et par contre, manifestement, il y avait beaucoup de relations sous la table aussi, ce qui explique le fait que maintenant, ce sont les premiers pays qui font des démarches aussi pour le retour de la Syrie à la Ligue arabe et pour la reprise des relations avec la Syrie, puisque tout le monde se rend compte peut-être qu'ils étaient sur le mauvais chemin et ils avaient tort dans la mesure où toutes les allégations qui étaient avancées par les États-Unis pour cette guerre contre la Syrie sont des allégations fausses, hein, comme ça a été toujours le cas, comme on le sait. Le monde occidental est un monde de mensonges médiatiques assez systématiques. Donc ces allégations pour la Syrie ont été fausses. Je rappelle aussi que là, on est dans le 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak aussi sur des allégations fausses sur la base de soi-disant la construction d'armes de destruction massive en Irak et que velléité d'envahir ses voisins, etc. Donc n'empêche que ça a donné 1,5 million de morts et le pays a été complètement transformé de fond en comble, a été complètement détruit. Bon, bien sûr, les Irakiens reprennent maintenant leur... Ils ont déjà pansé leurs blessures et ils essayent de reprendre leur indépendance. La Syrie a bien résisté, a résisté à cette agression américaine en bonne et due forme, occidentale, moi je dirais, pas seulement américaine, c'est les États-Unis avec l'OTAN par des proxys interposés, par des terroristes qu'ils ont loué, et des mercenaires, en fait, qu'ils ont loué à cet effet. L'échec de cette guerre terroriste en Syrie contre la Syrie a fait, effectivement, qu'il y a un nouveau monde qui apparaît et que le nouveau monde que nous voyons aujourd'hui poindre du nez et qui se forme réellement. La Syrie a été vraiment son initiateur, je peux dire, parce qu'elle a résisté pratiquement toute seule jusqu'en 2015 à l'agression américaine et OTAN. Et puis, à partir de 2015, le fait qu'elle ait demandé à la Russie de l'aide pour intervenir, et là, ça a été effectivement... qualitativement important pour la libération de l'ensemble du territoire syrien, mais aussi ça a été important pour le changement du monde.
Merci, Madame Midani. Je me permets de vous interrompre parce qu'il y a une question qui se pose pour avoir discuté avec d'autres Syriens. Certains disaient que peut-être que Monsieur Assad, le président Assad, ne serait pas élu aux prochaines élections parce que les Syriens seraient fatigués du conflit, chercheraient donc un président plus diplomatique. Est-ce qu'on peut dire que le président Assad répond donc à la demande de ses citoyens en tout simplement permettant la diplomatie, restant ouvert à la diplomatie? Et est-ce que c'est pas finalement, il répondra finalement à la demande de son peuple d'essayer donc à ce que les frontières soient beaucoup plus amicales qu'avant?
Nous n'avons agressé personne. Donc, les non-frontières, elles ne sont pas amicales par l'agression des autres. Le président Assad n'a agressé personne et il n'a éliminé personne. Ce sont eux qui nous ont agressés. La Turquie nous a agressés et jusqu'à maintenant, elle occupe une partie de notre territoire et elle anime aussi toutes les hordes terroristes qui sont à Idlib. Les États-Unis nous ont agressés et pillent nos richesses de pétrole et de céréales et de blé et de produits agricoles comme le coton, important comme le coton, comme les oliviers, comme tous les produits agricoles que fait la Syrie et surtout dans cette région de Hasaké nord-est de la Syrie, elles sont pillées par les Turcs, par les Américains, toujours par proxy interposé, mais les Américains, quand ils pillent le pétrole, ils le pillent eux-mêmes tout seuls. Et
merci,
tous
Madame
les jours,
Mille.
Il y a des centaines de citernes qui partent vers leur base qui est à Shedadi, qui est dans le nord-ouest de l'Irak.
Merci, Mme Denise, pour ce rappel. Alors, Monsieur Luc Michel, on voit une véritable concordance de calendrier ces deux dernières semaines, parce que si les choses ont bougé après que l'Iran ait fait cette signature diplomatique en Chine, tout s'est mis en place, mais pour l'Iran, c'est pas une date faite par hasard, puisque c'est passé juste avant les fêtes de Nowruz, une date extrêmement importante pour le calendrier donc iranien. Vous-même, quand vous voyez cette concordance de calendrier, est-ce que beaucoup de choses se sont passées? Il n'y a pas forcément seulement la rencontre de Assad aux Émirats arabes unis. Comme j'ai expliqué avec l'Iran, la diplomatie vers les pays arabes a augmenté. Il y a également cette rencontre à Moscou avec Xi Jinping, mais également les le forum panafricaniste à Moscou. Beaucoup de choses sont révélées dans ces deux dernières semaines. Vous-même, quand vous voyez cette concordance, vous y voyez une concordance? Est-ce le fruit d'un hasard ou c'est bien ces trois pays, l'Iran, donc la Russie et la Chine, qui ont mis en place un calendrier afin de se préparer au printemps qui s'annonce extrêmement difficile, notamment en Ukraine?
Non, il y a une dynamique mondiale qui a été lancée par Poutine et qui est soutenu par l'Iran et la Chine, et qui vise à dynamiter l'ancien ordre mondial américain. C'est une dynamique vers un monde multipolaire, et la Syrie surfe sur cette dynamique multipolaire. Ce que nous assistons vis-à-vis de la Syrie, c'est l'échec du printemps arabe, sans même parler de l'Irak dont on fête l'anniversaire, le triste anniversaire aujourd'hui. Ce printemps arabe qui a détruit le Yémen, la Libye et la Syrie, qui a fait des millions de morts, c'est un échec complet. Le but du printemps arabe était deux décennies occidentales avant, c'était d'isoler la Syrie. Il y avait déjà eu ce qu'on a appelé improprement la révolution des cèdres, qui est une révolution de couleur occidentale au Liban visant à chasser la Libye. Tout cela, c'est un échec. Damas s'est désenclavé elle-même. Elle est reconnue par ses pères arabes et ce n'est que justice.
Merci, Monsieur Luc Michel. Madame Midani, malheureusement, aujourd'hui, il y a eu une attaque de l'aéroport de la capitale syrienne, Damas. Selon Sana, il n'y a eu que des dégâts matériels. L'un des plus gros ennemis, finalement, de la Syrie reste l'entité sioniste, comme l'est pour l'Iran, comme l'est pour le Liban. C'est finalement un ennemi qui concorde et qui provoque beaucoup de déstabilisation dans le pays. Et qu'est-ce que disent les dernières informations concernant cette attaque qui s'est passée donc aujourd'hui ou hier soir à Damas?
Bah écoutez, les Israéliens, ils n'arrêtent pas d'attaquer la Syrie. C'est toutes les deux semaines ou toutes les semaines pratiquement. Et ils attaquent les aéroports. Alors je tiens à dire quand même, c'est non seulement la Syrie ne les a pas agressés, mais en plus l'aéroport de Damas est un aéroport civil et c'est l'aéroport qui reçoit aussi les aides après le séisme. Donc c'est un double crime. Et l'entité sioniste s'enfonce dans ses crimes et s'enfonce dans ses agressions et dans ses violations systématiques du droit international et de la et vraiment des droits humains, tout simplement. Donc c'est l'allié privilégié des États-Unis, c'est leur instrument dans la région. Je ne dis pas les États-Unis seulement, mais c'est tous les pays de l'OTAN. Et c'est quelque chose d'assez fou, cette criminalité qui est impunie et soutenue par l'Occident, qui prétend systématiquement qu'il défend les droits de l'homme. D'ailleurs, je voudrais là-dessus dire que c'est vraiment... Maintenant, les masques sont tombés aux yeux de tout le monde sur la nature de l'Occident, la nature de ces pays qui prétendent parler de liberté et de défense des droits de l'homme, qui ne sont que des agresseurs permanents et des gangsters qui commettent des crimes contre l'humanité, contre les gens, contre les civils, contre les peuples. Et d'ailleurs, il suffit de voir comment cette entité sioniste traite les Palestiniens. C'est une manière absolument non seulement fasciste, mais je crois que démesurée dans le fascisme. Et il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et ce soutien abject des pays occidentaux à cette entité fait d'eux aussi des criminels et des complices du crime systématique.
Merci. Alors, Madame Midani.
Aussi.
Alors, Monsieur Luc Michel, les Algériens, cette semaine, ont indiqué que les différents accords qui se sont passés au Moyen-Orient vont permettre à ce que la cause palestinienne soit mieux protégée, qu'il y ait une plus grande unité dans le monde arabe. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par le président algérien, Monsieur Tebboune? Est-ce que ça va permettre à ce qu'il y ait une plus grande unification sur la manière de dialoguer avec l'entité sioniste concernant les territoires palestiniens occupés et les crimes israéliens?
Bien entendu, on assiste depuis un an, parallèlement au désenclavement de la Syrie, à la relance de la lutte palestinienne grâce principalement à l'Iran et à l'Algérie. Il faut constater cela. Les Algériens, la cause palestinienne qui est un peu mise de côté depuis une décennie aujourd'hui, c'est une cause à niveau populaire et qui bénéficie du soutien de la rue arabe, comme l'a montré la récente, les incidents de la Coupe du Monde de football. Donc la Palestine, la cause de la Palestine n'est plus isolée, d'autant plus que c'est le gouvernement israélien qui est isolé. C'est un gouvernement néo-fasciste qui est fait avec les éléments les plus radicaux du sionisme et le Likoud de Netanyahou. Cet isolement qui est même réel aux États-Unis du Likoud, évidemment, il correspond au désenclavement des Palestiniens.
Merci, M. Luc Michel. Madame Dani, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par M. Luc Michel, rappelant donc aux auditeurs que le Golan syrien est occupé également et subit également une occupation de l'entité sioniste, comme l'est la Palestine, et que pour la Syrie, la question palestinienne n'a jamais été oubliée. Vous-même, vous êtes d'accord? Est-ce que grâce à cette unification qui est en train de se passer, cette énergie, cette synergie, la cause palestinienne pourrait donc plus protégée?
En fait, la cause palestinienne, elle est toujours restée au cœur de tous les peuples arabes et de tous les pays arabes. C'est une profonde injustice, en fait, qui a été même, qui a même été approuvée par les Nations Unies, malheureusement, en 1948. Et je suis d'accord avec les propos de M. Luc Michel complètement. C'est un pays fasciste, l'entité israélienne est fasciste et elle réunit les éléments les plus extrémistes dans leur fascisme, aussi le Likoud et les autres. Maintenant, je peux dire que, en fait, la résistance de la Syrie et le fait de dire, montre que quand on peut gagner, on peut être victorieux, et donc a permis effectivement de donner beaucoup de courage au peuple palestinien qui effectivement a relancé sa lutte et qui s'organise de manière systématique et dans tout le dans tout le territoire palestinien. Alors, en jetant derrière lui les accords d'Oslo, les accords, tous ces accords qui visaient à diviser le pays et à donner ce qui ne, de manière illégale à Israël, à l'entité sioniste, une grande partie du territoire palestinien.
Merci, Mme
Je pense que. Ouais, alors, je pense que de toute façon, les Palestiniens vaincront de toute manière.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites pour vous poser une autre question sur ces derniers temps, les rapports iraniens en matière de diplomatie indiquent que les premiers mouvements vers la diplomatie, vers les pays arabes, vers l'Iran, vont permettre peut-être d'ouvrir des solutions, de permettre des solutions pour différents autres pays arabes qui seraient intéressés d'avoir de nouveau une diplomatie active avec l'Iran. On a parlé de l'Égypte, on a parlé de Bahreïn, on a parlé de la Jordanie. Est-ce que pour la Syrie, ça va être pareil? Les Émirats arabes unis ne vont pas être les premiers et derniers. Est-ce qu'il y a d'autres pays arabes? Est-ce que vous entendez des échos dans l'actualité syrienne sur d'autres pays arabes enclins à faire un pas vers la Syrie du président Assad?
Ah, bien sûr, elle est à moi la question, c'est ça?
Oui, elle est pour vous, Madame Midani. Ah, ce serait vous qui concluez le débat d'aujourd'hui.
L'Égypte, oui. L'Égypte, par exemple, a repris ses relations avec la Syrie. Il y a eu une visite non seulement de l'ensemble des partis, d'un consortium des partis politiques qui est venu en Syrie, qui ont rencontré Assad aussi. Et il y a eu le ministre des Affaires étrangères égyptien qui est venu en Syrie. Et ces choses, en fait, se préparent. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, peut-être, se préparent du côté de l'Arabie saoudite aussi, parce qu'après cet accord sous l'égide de la Chine entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ça permet aussi de poser la question autrement. En fait, tous les pays arabes maintenant se posent la question, non pas par rapport à la Syrie, mais aussi par rapport à une nouvelle politique, à un nouveau positionnement dans ce nouvel ordre mondial. Ils sont tous conscients qu'ils ont un rôle à jouer, beaucoup plus important alors qu'ils étaient marginalisés et pillés par le monde occidental au moment du règne, je dirais, monopolistique américain. Donc là, il y a une prise de conscience sur un rôle qu'on peut avoir en fait avec les pays de l'Asie, de la Russie et puis avec l'Iran dans toute la région, qui va dans le sens d'une prospérité économique et politique de la région, des peuples de la région et donc d'une opposition, je dirais, aussi à l'hégémonisme américain et surtout à l'hégémonisme de toutes sortes. Parce que là, on tend vers des rapports égalitaires où on traite d'égal à égal avec tous les pays et en termes de gagnant-gagnant au niveau des rapports économiques, au niveau des rapports sociaux et des échanges. Donc, tout ceci, ce sont les fondements, ce sont des fondements plus sains, je dirais, et qui prépare ce nouveau monde et auquel, effectivement, les pays se rangent.
Merci,
la Syrie est aussi la pierre angulaire dans la région de l'axe de la résistance, je pourrais le dire. Et donc, ça aussi, quand on veut la libération de la Palestine, c'est important de traiter avec la Syrie.
Merci, Madame Midani. Merci. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion de Madame Midani, surtout concernant l'égalité des pouvoirs entre États et le respect de la souveraineté?
Oui, tout à fait. Et une des clés du nouveau monde, c'est le basculement du Proche-Orient. L'Arabie saoudite est passée du côté du bloc de l'Est et les États producteurs de gaz, le Qatar et les Émiratis, ont basculé également du côté du bloc de l'Est. C'est le Proche-Orient qui est en train d'échapper des mains américaines et des mains sionistes, et c'est cela qui est capital. réception de la Sultanat d'Arabie Saoudite, évidemment. C'est l'événement le plus significatif.
Merci, Monsieur Luc Michel. Je remercie donc à nos experts, Madame Midani, je le rappelle, analyste franco-syrienne, Monsieur Luc Michel également, notre analyste, notamment pour le continent africain. Je vous remercie à tous les deux donc d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce débat et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Au revoir.
Miniature persane. Les peintures rupestres découvertes dans la grotte de Doché, dans la province du Lauriston, vieilles d'environ 10 000 ans, seraient probablement les œuvres picturales les plus anciennes découvertes en Iran. Pendant la période pré-islamique, les œuvres picturales décoraient souvent les murs des grands monuments royaux, depuis les Achéménides jusqu'aux Sassanides, en passant par la courte domination hellénique avec le règne des Séleucides et des Arsacides. Après l'islamisation de l'Iran à partir du 7e siècle, l'empire perse sassanide tomba aux mains des Arabes musulmans en 641. Le territoire de l'Iran actuel fut alors incorporé au califat, situé d'abord à Médine, puis à Damas, les Omeyyades, et à Bagdad, les Abbasides. Après la conquête arabe, les arts et la littérature connurent une période de recommencement et de restructuration de 3 siècles environ, sous l'influence du choc assez brutal de différentes cultures. Cependant, les influences culturelles furent réciproques. Les califes Omeyyades de Damas adoptèrent les modes de vie de la cour sassanide et les Abbasides de Bagdad, encore plus influencés par la culture perse, s'inspirèrent du luxe perse. Ces échanges culturels entre l'islam et la Perse avaient déjà préparé l'adaptation des arts iraniens à l'expression des croyances religieuses des Iraniens musulmans. En effet, dès le 9e siècle, des dynasties locales s'émancipèrent de la tutelle abbasside. Les Samanides, les Ghaznavides, d'origine turque, et les Buyides restaurèrent l'autonomie des Perses par rapport au califat arabe. Les Samanides, les Ghaznavides, d'origine turque, et les Buyides restaurèrent l'autonomie des Perses par rapport au califat arabe. À cela s'ajouta la résurrection du talent perse. La philosophie, la médecine, les mathématiques et les arts se développèrent. De nombreuses œuvres écrites en grec, dont celles d'Aristote, de Platon, d'Euclide et de Galien, furent traduites dans la langue du Coran, l'arabe. Ce mouvement de traduction, qui permettait la diffusion du savoir, a rendu également un grand service aux arts picturaux, car à cette période, la fonction la plus importante de la peinture était l'illustration. Bagdad, la cité des mille et une nuits, située à la frontière du monde iranien, se développait comme capitale des sciences et des arts, où l'illustration des œuvres écrites devint vite un métier à part entière. La
la miniature iranienne naquit pour illustrer d'abord des ouvrages scientifiques et techniques, avant de se spécialiser dans l'illustration des œuvres littéraires. La miniature illustrait le texte littéraire, le rendait plus agréable et plus facile à comprendre. Tout au long de cette première période, les miniaturistes persans qui travaillaient à Bagdad étaient plutôt influencés par l'école picturale de Byzance, tandis que les techniques perses de l'époque des Sassanides étaient encore appliquées dans ce que l'on peut appeler l'école de miniature internationale de Bagdad. Dans les portraits de cette période, les individus portent souvent des habits sobres qui rappellent les personnages sassanides. Comme dans l'art byzantin, il y a parfois des personnages ailés. Les feuillages représentent schématiquement la nature, tandis que les fonds de paysage sont simples et sobres, sans couleur, comme si les sujets peints étaient suspendus dans le vide. L'aspect particulier de ces miniatures résidait dans le fait qu'elles absorbaient les complexités et qu'elles réussissaient étonnamment à traiter des questions métapicturales telles que la nature de l'art. Au XIe siècle, sous les Seljoukides, une nouvelle école de peinture naquit en Iran. Si l'école de Bagdad était trop dominée par la peinture byzantine, l'école seljoukide était bel et bien fondée sur les traditions persanes. À cette époque, le livre d'images de Mani devint de nouveau la source d'inspiration des miniaturistes persans. Mani, 216-277, fondateur de la gnostique manichéenne, surnommé parfois Christ d'Orient et Bouddha d'Occident, est moins prophète que peintre, et son livre d'images, l'Arjang, bien que disparu, représente dans l'imaginaire iranien l'apogée de l'art pictural. La miniature de l'époque seljoukide conserve la sobriété du style bagdadien, mais subit également l'influence de la peinture pré-islamique, sassanide, et du monde chinois. Dans ces miniatures, des auréoles apparurent au-dessus de la tête, proportionnellement plus grandes que le corps, de certains personnages. Vers la fin du XIIIe siècle, l'école d'art de Tabriz fut fondée. Pour la première fois, des ateliers spécialisés dans l'illustration et l'enluminure des livres furent établis dans cette ville. Les développements artistiques des débuts de l'école de Tabriz étaient caractérisés par la combinaison des traits chinois avec les styles arméniens et byzantins. Cette influence peut s'expliquer en partie par la situation géographique de Tabriz, proche des frontières arméniennes. Au XIIIe et XIVe siècle, sous les Ilkhanides mongoles, grâce à la sagesse des gouverneurs locaux qui avaient su protéger la ville pendant l'invasion mongole, la vie culturelle connaît un essor nouveau à Shiraz. Les illustrations de cette période sont parmi les chefs-d'œuvre de la miniature persane. Tout est parfait, clair, à la fois dans la composition et dans les détails. L'école de Shiraz allait influencer les peintres de tout l'Iran. Et à la fin du XVe siècle, c'est elle qui produit les plus belles miniatures. Dans la première moitié du XVe siècle, une école artistique s'établit à Herat et accueillit les plus grands noms des écoles de Tabriz et de Shiraz. Les premières miniatures de cette école, nouvellement ouverte, reproduisaient encore avec beaucoup de minutie les détails architecturaux et les paysages naturels. Les éléments chinois et byzantins commençaient à disparaître progressivement, tandis que les portraits devenaient plus naturels et vivants. La miniature persane devint à partir de ce moment-là plus poétique et plus imaginative.
Les œuvres de cette période sont marquées par l'usage d'une palette de couleurs plus vive. Les illustrations ne se plaçaient plus à côté du texte, car des pages entières étaient désormais consacrées à la peinture. Au XVIe siècle, avec l'apparition d'Iskandar Sultan, l'école d'art de Shiraz vécut un nouvel âge d'or. Dans leur nouveau atelier, les artistes créèrent des chefs-d'œuvre très appréciés de la cour timouride. Les œuvres des maîtres de Shiraz se personnalisent avec l'apparition d'une symétrie plus ou moins extravagante et d'un contraste des couleurs entre les sujets principaux et le fond des tableaux. Après la mort de Tamerlan, le plus jeune de ses quatre fils, Shahrokh, établit sa capitale à Herat. Il chargea son fils cadet, Baysunrur, grand bibliophile, d'étendre et de développer la bibliothèque royale. Baysunrur devint ainsi le mécène des artistes peintres d'Herat et leur demanda un grand nombre d'illustrations pour les ouvrages de sa bibliothèque. Un des peintres les plus brillants de l'école de Herat fut Kamal ed-Din Behzad. Sous son influence, l'école de Herat évolua vers l'usage des couleurs vives et transparentes, l'abondance des décorations et la disparition quasi totale des éléments chinois. D'autre part, les originalités de l'école de Shiraz s'accentuèrent dans les œuvres des maîtres de Herat et furent à l'origine des plus beaux chefs-d'œuvre de la miniature persane. Muhammad Siyah Qalam et Tuhollah Mirak étaient deux des grands maîtres de l'école de Herat avant son déclin vers la fin du XVIe siècle. Mais Behzad reste sans aucun doute le grand maître incontesté de la miniature persane de tous les temps. C'est dans ses tableaux que l'on voit pour la première fois un vif intérêt pour les portraits et les détails prosaïques de la vie quotidienne. Avec lui, la miniature sortit pour la première fois du cadre d'illustration des ouvrages écrits pour devenir de véritables tableaux de peinture.